Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, beaucoup de choses concernant les arnaques, les tentatives de vous voler de l'argent, puis également la décision du gouvernement fédéral de finalement déposer un projet de loi pour s'attaquer à la propagande haineuse et également à l'exploitation sexuelle des enfants sur le web. Donc, le gouvernement Trudeau a déposé ce projet de loi et il y a plein de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on veut faire en sorte que les propos haineux soient bannis rapidement, que si on retrouve des photos, par exemple, d'exploitation sexuelle, donc des photos d'activité sexuelle et qu'il n'y a pas de consentement de la personne, que les géants du web aient 24 heures pour retirer le matériel. Je parlais de propos haineux, de propos également graves, de menaces, de trucage. Alors, tout ce qu'on retrouve sur le web, le fédéral dit, il faut encadrer ça, et ça veut dire rendre le code criminel plus sévère et avoir un organisme de surveillance. Par contre, le gouvernement ne veut pas aller de l'avant avec la proposition de la sénatrice indépendante Julie Méville-Dechêne, qui veut absolument que pour des sites comme Pornhub, on demande que la personne donne son âge. Donc, que le site exige ait la garantie que c'est fréquenté par des adultes et non pas par des enfants. Parce que dans les faits, il y a des enfants nombreux qui ont accès à des sites de pornographie en ligne très facilement. Je veux bien que ce soit la responsabilité des parents de surveiller tout ça, mais la technologie évolue rapidement et il faut, c'est vrai, avoir un lien de confiance entre les adultes et les enfants, mais il y a une responsabilité quand même des propriétaires de ces sites. Et l'histoire enseigne. J'ai lu un bouquin sur les grands principes de Facebook. Et à chaque fois que Facebook se faisait interpeller en disant « Comment ça se fait que vous permettez que des propos haineux circulent, qu'on se retrouve avec de la pornographie sur Facebook et c'est facilement trouvable ou on vous donne accès à des sites. » Et à chaque fois, Facebook avait un discours officiel et en pratique, faisant en sorte que les algorithmes faisaient leur boulot comme avant. Et ce n'était qu'un show de boucan de Facebook. Alors, je ne crois pas une seconde au volontariat des géants du web. Si on ne serre pas la vis, il n'y a rien qui va changer. Et je ne comprends toujours pas pourquoi le fédéral ne veut pas aller de l'avant avec la proposition de la sénatrice Méville-Dechêne. Ce n'est pas contradictoire. Au contraire, c'est pour moi complémentaire. Mais pour l'instant, on ne veut pas ça. Premier volet ce matin. Le deuxième volet, ça concerne la liberté d'expression. Et les conservateurs, M. Poilievre en tête, dit, aiment pas ça quand le gouvernement se mêle de ça. Qu'est-ce qui est de la désinformation? À quel moment ça devient haineux? Et est-ce qu'on va pas exercer une forme de censure? Et c'est vrai qu'il y a cette préoccupation, et elle est aussi réelle aux États-Unis. Il y a deux États, le Texas et la Floride, qui ont déposé des projets de loi, et les deux se retrouvent devant la Cour suprême au nom de la liberté d'expression. Alors, les juges qui ont commenté l'affaire jusqu'à maintenant sont un peu partagés. Plusieurs disent, c'est pas à Facebook à décider ce qui est acceptable ou non. C'est pas à X de retirer le compte comme on le fait avec Trump. Ce ne sont pas ces entreprises qui doivent déterminer ce qui est acceptable. Sinon, ça devient de la censure. Sinon, c'est une entrave à la liberté d'expression. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu. Et comment tu détermines, puis là, vous allez me dire, il y a le code criminel, puis il y a des critères, c'est vrai, mais c'est extrêmement fragile. Qu'est-ce qui est de la désinformation? On peut penser aux États-Unis que Tucker Carlson dit n'importe quoi. On a le droit de le dire, on a le droit de l'exprimer. Est-ce que, pour autant, il faut l'empêcher de parler? Et qui va décider ça? Et basé sur quels critères? Vous allez voir plusieurs papiers ce matin. Et si je demeure dans le paradis des arnaques de toutes sortes, encore ce matin, c'est la presse qui nous parle de gens probablement postés à l'étranger qui ont créé une arnaque pour faire croire à l'existence de loyers qui coûtent pas cher, qui sont pourtant très recherchés, et pour lesquels on vous demande de payer un mois de loyer pour pouvoir venir le visiter. Et qu'est-ce que l'enquête démontre? Que ces appartements qui sont très recherchés sont en fait des photos prises dans des logements, par exemple, ou dans des maisons qui ont été vendues, dans des logements qui n'existent plus. On a créé de toutes pièces ces faux loyers. Ils n'existent pas, ils ne sont pas disponibles. Et donc, on recrute des gens qui deviennent comme des espèces de courtiers sur le web et qui tentent comme ça d'aller chercher des gens qui vont accepter de payer. Et ça marche, et pas juste ici, ça marche ailleurs dans le monde. Alors, ce sont des stratagèmes qui se multiplient sur le web. Ce matin, The Gazette nous parle d'une arnaque. Et c'est pas juste la revente de faux billets de Taylor Swift à Toronto. Ce sont des bandits qui ont arnaqué des comptes et qui font croire à une de vos amies que vous avez des billets pour Taylor Swift puis que vous êtes prêt à lui vendre. Puis comme tu vois que c'est le compte de ton ami, ben t'envoies l'argent pour découvrir par la suite que tout ça est une fraude. Et vous avez aussi, vous l'avez remarqué sans doute, les textos. On est inondé de courriels, de textos avec votre numéro d'assurance sociale. Il y a des banques de données qui ont été comme ça siphonnées. Puis dans la presse, entre autres, on parle de ça ce matin. C'est un avertissement du Centre antifraude du Canada. Des messages textes, on prétend que c'est envoyé par l'Agence de revenus du Canada. Puis on donne votre nom puis votre numéro d'assurance sociale, d'où l'importance d'être extrêmement prudent. Je vous raconte l'histoire de ces vols de voitures, ou en tout cas, appelons ça des stratagèmes pour voler des voitures. Imaginez, vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu. Votre voisin, donc sur la même rue, c'est le motard Grégory Houlet qui a été assassiné, on le sait, en sortant du CLSC. Il était avec sa femme, son enfant, et lui est mort abattu. Puis il y avait déjà eu des tentatives d'intimidation dans le quartier, erreur sur la propriété. Donc, vous habitez là. Vendredi, vous avez rendez-vous chez le concessionnaire pour l'entretien de votre véhicule. Durant la journée, le concessionnaire vous appelle pour vous dire qu'ils ont trouvé un dispositif GPS installé sous ce qu'on appelle le rocket panel sur l'auto. Donc, on a caché ça. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fait là et pourquoi? Vous appelez la police à Saint-Jean et on vous répond tout simplement que c'est pas un crime comme tel. Il n'y a pas donc d'enquête. Puis enlevez-le, puis jetez-le. Tu dis, ben oui, non. Il me semble que dans le contexte, des gens appartenant, ça mériterait autre chose que jeter ça. Un autre cas dans Rivière-des-Prairies, un autre auditeur qui me raconte ça, ils ont découvert, puis ils ont même filmé, là, quelqu'un qui met un tag sur son véhicule et on sait c'est quoi la façon de faire. C'est que tu... Mettons que tu as une commande, tu as besoin de tel type de véhicule. Dans le cas qui nous intéresse, disons que c'est assez clair là, que le monsieur est ciblé, qu'il y a un véhicule qui est recherché. C'est un VUS. Alors là, ils voient ça dans un stationnement, mettons, d'un centre commercial. Ils vont émettre un tag sur le véhicule, puis après ça, ils vont vous suivre pour voler votre véhicule. Une fois que vous serez stationné, puis que vous ne serez pas dans l'auto, ils vont vous voler. Encore là, téléphone à la police dit « Non, non, on ne s'occupe pas de ça. » Mais vous vous occupez de quoi d'abord? Là, les grands discours sur les vols d'auto, que c'est important, puis qu'on a déployé, puis qu'on a des budgets, il me semble que d'essayer de voir s'il y a des liens avec des voleurs, me semble que ça pourrait être utile. Et ultimement, si vous pensez que c'est de la merde, pourriez-vous rassurer le citoyen plutôt que de répondre assez bêtement « Va jeter le dispositif, ton auto n'est pas abîmée, c'est pas notre problème. » Ce qui nous porte à croire que c'est pas encore très important et que de toute façon, c'est du matériel puis que vous allez payer plus cher au renouvellement de vos assurances automobiles parce que le nombre de véhicules volés explose. Voilà pour la section des arnaques et des vols ce matin. Le Devoir nous apprend que Juste pour rire serait en très sérieuse difficulté. l'entreprise qui vivote depuis le départ de Gilbert Rozon va sans doute être obligée de faire des mises à pied ou en tout cas peut-être changer complètement. On sait que Rozon avait vendu de force, qu'il y a un litige avec les acheteurs, que ce sont des gens qui sont davantage des gestionnaires, des comptables que des artistes, que des créateurs. Alors, c'est pas très rose. Les détails sont dans le Devoir ce matin. Le Journal de Montréal revient sur l'attente pour ce qui est des ambulances. Et on se demande à quel moment le ministre de la Santé, Christian Dubé, va annoncer des mesures. Si vous avez 60 ans et plus, Québec veut absolument que vous restiez sur le marché du travail. Puis je vais vous donner des exemples ce matin de gens qui ont plus de 60 ans et qui décident de continuer à travailler. Alors là, c'est un projet pilote avec le Conseil du patronat. Écoutez ça hier, là. OK, c'est parfait. On donne 1 million au Conseil du patronat pour encadrer les PME, pour les aider à prendre conscience du phénomène, puis leur montrer comment garder leurs employés, comment recruter du monde de 60 ans. Mais on n'a rien compris, là. Je veux bien qu'on donne 1 million au Conseil du patronat pour que ça soit... qu'on ait une trousse des outils pour les employeurs. Mais il y a deux raisons, deux grandes raisons qui font qu'on reste après 60 ans sur le marché du travail. Un, on n'a pas le choix. On n'a pas les revenus. Puis il faut continuer à travailler. Et c'est le lot de bien des gens qui n'ont pas planifié ou qui n'ont pas eu les revenus dans leur vie leur permettant de quitter à 60 ou 65 ans, même avec les pensions. Ou il y a des gens qui veulent continuer à travailler pour le plaisir de travailler. Alors quand je vois la ministre dire qu'il faut laisser de côté les travailleurs étrangers et recruter notre main-d'œuvre, financièrement, quel est mon incitatif? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça vaut la peine que je reste sur le marché du travail? Parce que c'est pas une des raisons principales, mais ça joue. Il y a combien d'auditeurs qui m'écrivent en disant « Quand je calcule tout ça, les montants dépensés pour aller travailler, quand tu mets tout sur la table, est-ce que ça vaut vraiment la peine? » Tu sais, Pierre-Yves a cette phrase magique, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On pourrait la modifier un peu puis dire est-ce que ça en vaut vraiment la peine. Alors, on va y revenir ce matin parce que c'est pas avec une annonce d'1 million pour une trousse que ça va changer grand-chose. Je veux vous parler aussi de logement. Je parlais tantôt d'arnaque là, concernant le logement. Hier, on a annoncé un projet de construire 10 immeubles de 100 appartements dans 10 villes du Québec pour des personnes âgées qui sont autonomes d'ici 2 ans. C'est un projet avec des fonds du gouvernement du Québec, avec des fonds du gouvernement du Canada. On dit que les deux paliers vont investir autour de 115 millions dans ce projet qui s'appelle Mission Unité Aînée. Et c'est l'homme d'affaires Luc Maurice qui a des résidences pour personnes âgées, qui a créé une fondation et qui contribue également à ce projet pour offrir donc des logements qui vont coûter pas trop cher. On parle d'à peu près 600 $. Et les villes, au terme de l'exercice, vont pouvoir récupérer les immeubles en question. Je me disais, enfin, un projet positif, quelque chose qui est intéressant, des logements pour des personnes âgées qui sont autonomes, mais qui veulent aller en résidence pour la sécurité, par exemple. Et là, tu dis, tout le monde va applaudir. Ben là, je vois des lobbies frappés qui disent, ouais, c'est pas la philanthropie de contribuer. Je n'en reviens pas pour tout vous dire. Je regardais aux États-Unis, il y a une femme qui a donné 1 milliard, je répète, 1 milliard de dollars à une école, une faculté de médecine dans le Bronx. Son mari, décédé, a fait une fortune avec Warren Buffett. Il a été dans les premiers investisseurs. On parle ici d'une richesse incroyable. Et elle a vu dans ses quartiers pauvres, parce que ça coûte à peu près 200 000 dollars de frais de scolarité pour former un médecin, elle s'est dit, je veux m'assurer que cet argent-là, 1 milliard, serve à former de nouveaux médecins. Il n'y a personne qui trouve ça. Tu sais, qui dit, ouais, mais c'est-tu à une fondation? Non, non, on se réjouit de ça. Au Québec, on va y voir un complot, on va y voir une façon de sauver de l'impôt. Tu dis, t'as un homme d'affaires qui a réussi dans l'immobilier puis dans les résidences, qui dit, moi, je mets de l'argent de ma fondation sur la table, puis ultimement, ça revient directement aux gens, puis après ça, aux municipalités. Non, ça prend quelqu'un pour trouver ça ordinaire. On va en parler aussi un peu plus tard ce matin. Et Jean-François Lépine sera avec nous vous dire que tout indique qu'il y aura un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, qu'on pourrait même échanger des prisonniers palestiniens contre des otages. Et quand je parle de prisonniers palestiniens, ce seraient des figures de haut niveau. Donc, avec Jean-François, on fera le plein. Mais entre-temps, cette guerre continue. Et la ville de Rafah, qui est toujours visée, on sait que Netanyahou a dit, entre autres, même s'il y a un cessez-le-feu, on lâchera pas la ville de Rafah. Il y a cet esprit de vengeance qui continue et qui crée énormément de tensions. Et on laisse toujours de côté, malheureusement, tout l'aspect humanitaire de ces milliers et milliers de personnes qui sont décédées dans les bombardements, dans les opérations militaires, les hôpitaux qui sont attaqués, les chaînes d'approvisionnement qui sont rompues. Et c'est pas d'être partisan dans un camp ou dans l'autre, mais c'est de regarder cette réalité qui est une horreur en 2024. Et on voit pas à quel moment ce conflit va s'arrêter pour vrai.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Le gouvernement du Québec donne 1 million au conseil du patronat pour que le conseil explique aux employeurs comment garder leurs employés de 60 ans et plus, comment recruter des gens de 60 ans et plus. On est d'accord, c'est une belle idée, c'est un beau principe, mais ça prend plus que ça pour convaincre des gens de vouloir travailler. Puis je me suis dit ce matin, on a invité 2 personnes qui ont plus de 60 ans et qui décident quand même de travailler. Pourquoi ces personnes-là le font? Qu'est-ce qui les motive? Je vous présente ces 2 invités. D'abord, Lise Beaudoin, qui est coordonnatrice de l'équipe des Petits Frères du Sud de Lanaudière. Elle a plus de 75 ans. Madame Beaudoin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. Comment allez-vous ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, très, très bien. Merci beaucoup.
Et je vous présente l'autre invité. C'est notre collègue Lise Lapointe, qui travaille à l'émission, qui a plus de 60 ans et qui décide quand même de se pointer ici tous les matins. Lise, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand. C'est bizarre de dire ça.
C'est très bizarre.
Et bonjour, Madame Lise.
Oui, bonjour.
Je commence avec vous, Madame Beaudoin. Pourquoi vous êtes encore en train de travailler à 60 ans et plus, là, 70 ans et plus?
Eh bien, je dois vous dire que je suis chez les Petits Frères depuis 41 ans. Et il y a là un peu de la passion, hein. Je pense que le travail que je fais auprès des personnes âgées est très, très, très gratifiant. Et on s'attache aussi énormément aux gens qu'on accompagne. Alors, ma santé est excellente. Et je me suis toujours dit dans la vie, bon, t'as une bonne santé, t'as une belle famille, il y a autour de toi plein de gens qui n'ont pas ce privilège, parce que je me considère comme une personne privilégiée. Alors pourquoi pas aller vers les autres et leur apporter le meilleur de toi-même? Alors je le fais depuis longtemps, puis je le fais encore avec énormément de plaisir et de bonheur.
Est-ce qu'il arrive un moment où on décide de penser un peu plus à soi, de se dire, je vais continuer un peu être active, mais moins, je veux voyager, je veux prendre du temps pour des loisirs personnels. Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là à un moment ou à un autre?
Mais je pense que cette réflexion-là, on l'a tout au cours, tout au long de notre vie en principe, mais de me dire arrêter de travailler pour ne penser qu'à moi, ça m'est jamais venu à l'idée. Ça ne m'est jamais venu à l'idée moi-même. Et je dois vous dire que voyager, de par mon travail chez les Petits Frères, j'ai eu l'occasion de voyager quand même beaucoup. Hein. Les Petits Frères, on est une organisation internationale. et j'ai été secrétaire générale de la Fédération internationale des petits frères pendant plusieurs années. Alors, ça m'a permis de voyager dans tous les pays où on a des petits frères. Et je dois vous dire que pour moi, aller à l'étranger, c'est toujours d'aller à la rencontre de personnes. Moi, là, j'ai jamais eu l'idée d'aller dans un pays uniquement pour aller voir les musées ou enfin les beaux paysages et tout. C'est extraordinaire, là. Mais moi, personnellement, quand je m'en vais à quelque part, c'est vraiment pour aller à la rencontre des gens.
Bon, je me tourne vers ma collègue Lise qui est ici tous les matins à partir de 5 heures le matin, continue à travailler, puis c'est des heures, puis c'est des journées longues. Pourquoi tu fais tout ça?
Parce que j'aime ça. Parce que je me lèverais pas à 3 heures le matin quand mon réveil sonne si je n'aimais pas ça. Ça, c'est sûr et certain. C'est ma motivation première. J'y pense même pas. Pour moi, ça se fait d'emblée. Un peu comme Mme Lise le raconte. Elle, ça fait quoi? 41 ans, vous dites, Mme oui. Lise, que vous oui. êtes avec les petits frères? Ben moi, ça fait 41 ans que je suis avec des animateurs. c'est à peu près la même chose. Mais je pense que la motivation première, c'est ça, c'est la passion. Je pense que c'est vraiment ça. C'est de faire ce qu'on aime. Si je n'aimais pas ça, c'est sûr qu'à 3 heures le matin, je ne me lèverais pas. Non.
Même si on aime ça, là, oui. est-ce que... Parce qu'il y a souvent deux raisons. Oui. D'abord, il y a des gens qui travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'argent pour vivre.
Oui.
Puis, ou encore, ils veulent, comme Mme Beaudoin vient de le dire, avoir des échanges, puis garder des contacts, puis être active, puis jaser avec le monde, puis sentir qu'on a une certaine utilité. T'as-tu besoin d'argent pour ça que tu travailles ou si tu pourrais arrêter?
C'est sûr que je pourrais arrêter puis je réduirais les dépenses. Ça, c'est sûr. Mais comme beaucoup de personnes le font, faire un changement de vie majeur, j'ai jamais vraiment arrêté. Je me suis jamais vraiment arrêtée à penser à ça. Je le fais parce que j'aime ça, puis tu sais, les vacances d'été arrivent, puis après les vacances, je reviens travailler, puis pour moi, c'est normal. J'ai la santé aussi, puis j'ai la passion. Fait que, tu sais, la passion, on peut appeler ça une passion. Le plaisir d'aller travailler, oui. C'est sûr que c'est pas toujours drôle là, tous les matins, là, on le sait, mais non, tu sais, chaque journée est différente, puis pour moi, ça se fait d'emblée. Tant que j'aurai la santé, puis que mes boss vont vouloir m'endurer. Il y a ça aussi.
Oui. Madame Beaudoin, Québec dit aux gens que vous avez 60 ans et plus, restez à votre emploi. On a besoin de main-d'œuvre. On veut pas toujours aller à l'étranger chercher des gens. Qu'est-ce que vous dites à des gens qui se posent la question? Ils ont 60, 61, ils disent, OK, je vais prendre ma retraite ou je vais en tout cas réduire pas mal mes activités. Qu'est-ce que vous leur dites? À quoi ils doivent penser?
Ben moi je trouve que à 60 ans, 61 ans quand on est encore plein de plein d'énergie, ça dépend toujours. Moi je me dis bon, le travail que vous faites, hein. On a déjà entendu cette phrase, plutôt que de courir pour faire un travail que vous aimez, pourquoi ne pas apprendre à aimer votre travail, hein? Alors, mais ça, on commence pas à penser à ça à 60 ans. Mais moi, je me dis que il faut trouver quelque chose. Il faut trouver une motivation, un plaisir et une joie à faire ce qu'on fait. Je pense que c'est ça qui nous permet de rester au travail. Et puis moi, des fois, vous savez, les gens qui n'aiment pas vraiment leur travail, je me dis, au moins, vous pouvez l'apprécier, parce que l'argent que vous faites au travail, ça vous permet d'avoir des loisirs, ça vous permet de voyager et tout. Ça peut déjà être en tout cas, moi, je trouve une bonne motivation pour aimer un peu ce qu'on fait. Et c'est sûr qu'à 60 ans, bon, si on est en pleine forme, on a encore énormément d'énergie aussi à donner, puis on a encore beaucoup de soi-même à offrir aux autres. On peut trouver un autre travail qui nous prend moins un peu ou qui pour lequel on va avoir un peu moins de responsabilité.
Réduire les heures aussi.
Réduire les heures, oui. mais ça, une autre question. Moi, j'ai connu une époque qui est pas si lointaine où on poussait à la porte les gens de 50, 55 ans, ou quand les gens de 55 ans perdaient leur emploi, c'était bien difficile de se trouver du travail après. Alors là, que c'est complètement l'inverse. Là.
Mais oui, c'est tout à fait l'inverse, bien sûr, parce que là, il y a, on voit, là, il y a des pénuries de main-d'œuvre partout, et je trouve que les gens qui veulent vraiment, après 60 ans, continuer à travailler, ont vraiment le choix de trouver un emploi qui peut être complètement différent de la carrière qu'ils ont toujours eue, mais qui vont leur permettre de découvrir un autre monde, un autre milieu, puis ça peut être très, très, très stimulant, puis on peut le faire un peu moins, là, au lieu de travailler 5 jours par semaine, travailler 3 jours par semaine, ou mais il y a des pénuries de main-d'œuvre, c'est pas croyable, là, ces années-ci.
Absolument. Lise, la pointe. Oui. Il y en a deux, Lise, ce matin. Quand tu regardes ça avec le recul, puis là, je te dis pas que faut porter un jugement sur les plus jeunes, mais il y a des gens dans certains métiers, ils commencent pas longtemps après, et déjà, ils pensent à la retraite. Moi, j'ai vu des jeunes policiers, moi, ça me jetait à terre, qui disaient, bon, OK, là, je calcule mon nombre d'années de service, ma date d'entrée, puis je m'en vais, là.
Oui. Ça, il y en a beaucoup, puis dans toutes les sphères d'activité professionnelle. Mais je pense, à la base, il faut aimer ce qu'on fait. Si t'aimes pas ça, puis que tu dis, ben il me reste 4 jours. J'avais un collègue de travail qui rentrait le lundi, puis il me disait, il en reste 4. Je dis, il reste 4 quoi? 4 matins à me lever. Voyons, c'est parce que t'es pas à bonne place, là. Il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, oui, il y a des journées moins le fun, là, moins plaisantes, mais non, je pense que c'est ça l'histoire, c'est que il faut être au bon endroit. Si tu fais un job que t'aimes pas, tu peux pas avoir cette motivation-là. Puis en plus, selon moi, l'importance de perdurer, c'est aussi l'échange du savoir. C'est de partager avec les plus jeunes qui poussent. Ça veut pas dire de tout montrer, mais c'est ça, c'est l'échange de l'expérience. C'est ça la fourchette qui est importante, d'avoir des gens de tous les âges qui vont échanger ensemble, puis t'en retires, veux pas. Moi, j'en retire beaucoup de mes collègues les plus jeunes, avec les réseaux sociaux puis toutes ces affaires-là. Je sais même pas combien. Où est-ce qu'ils trouvent le temps de tout faire ça? Parce que moi, j'ai d'autres priorités. Je réponds à ceux qui m'écrivent.
Et tu réponds au téléphone.
Puis je réponds au téléphone. Quand ça sonne, puis les gens m'appellent, puis ils me disent, tu réponds? Ben oui, mon téléphone a sonné. Pour moi, c'est normal, mais les priorités sont pas au même endroit. Et c'est de là l'importance d'avoir plusieurs générations, appelons ça comme ça, qui travaillent ensemble pour cet échange-là et cette richesse à l'autre bout dans l'efficacité.
Merci de t'être déplacé aujourd'hui, ta journée de congé, pour venir nous parler de ça ce matin.
Ça me fait plaisir, je t'ai réveillée.
Madame Baudouin, merci d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous.
C'était un plaisir.
Au revoir.
Bonne fin de journée.
Merci.
Lise Baudouin, qui fait 3 fois par jour à part de Montréal pour aller dans Lanaudière pour son travail avec les petits frères, et Lise Lapointe, qui est une perle dans cette émission, qui est une grande consommatrice de grands magasins du centre-ville de Montréal.
Oui, je m'en vais magasiner, là.
C'est pour ça qu'elle travaille, c'est pour payer ses factures de Ogilvy.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'Essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, le gouvernement Trudeau a finalement déposé son projet de loi qui vise à combattre les propos haineux, antisémites, la violence sur les réseaux sociaux, qui vise également à faire en sorte, entre autres, que l'exploitation sexuelle des enfants ne se retrouve pas sur les réseaux sociaux. Par contre, il n'a pas donné suite à la proposition de la sénatrice indépendante Julie Méville-Deschênes, qui veut forcer des sites de porno comme Pornhub à faire en sorte que les utilisateurs indiquent qu'ils sont adultes. Tout ça pour que les enfants ne se retrouvent pas sur les sites en question. Elle est avec nous ce matin. Madame Méville-Deschênes, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Comment vous expliquez que dans toutes les mesures annoncées, le contenu dans le projet de loi, Monsieur Trudeau et son gouvernement ne vont pas dans la même direction, ne vont pas inclure ce que vous proposez?
Écoutez, ça me déçoit énormément parce que je pense que c'est tout à fait complémentaire. Il est difficile de croire qu'on peut dire qu'on va protéger les enfants sans leur couper l'accès à la pornographie. Parce que tout ça est lié, en fait. Le Centre canadien de la protection des enfants dit que quand les enfants regardent trop de pornographie, quand ils deviennent accros, ça normalise à leurs yeux ce qu'est la pornographie. Et donc, ils peuvent être plus facilement hameçonnés sur l'Internet en pensant que toutes ces pratiques font partie de la normalité. Alors, dans mon cas, ce que je dis, c'est ce que le gouvernement a annoncé, c'est très bien. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'en nommant un ombudsman, et ça permet d'aller plus vite pour retirer ces contenus, l'exploitation sexuelle, les images sans consentement, parce que quand on passe devant les tribunaux, M. Arcan, vous le savez, c'est long. Alors l'idée de l'ombudsman, c'est qu'on donne des grosses amendes pour convaincre les médias sociaux de faire plus de ménage, et ce qui fait que les horreurs ne restent pas sur l'Internet. Alors ça, c'est important. D'accord, je ne nie pas que ce que le gouvernement fait, c'est une partie de la solution. Mais il oublie de regarder l'autre lorgnette, c'est-à-dire tous ces enfants qui regardent des millions d'images qui sont hardcore, qui sont violentes envers les femmes, qui peuvent être dégradantes et qui peuvent leur donner une vision complètement tordue de la pornographie. Alors, ça les rend à risque, mais aussi, ça colore toute leur vie sexuelle qui vient. Et les études montrent que les filles, maintenant, s'attendent à de la violence dans leurs relations sexuelles, s'attendent à des claques, s'attendent à être étouffées. C'est très à la mode, ça, apparemment, dans certains dans certaines vidéos. Donc, tout ça m'apparaît important. Donc, je pense qu'il aurait fallu agir sur les deux aspects de ce grave problème pour les enfants.
J'allais vous dire, Ottawa se concentre sur les producteurs, c'est-à-dire ceux qui produisent du matériel haineux par leurs commentaires, qui produisent des vidéos, qui distribuent des scènes de rapports sexuels sans consentement, mais a laissé un peu tomber le consommateur là qui est, je dirais, involontaire. Là, et on parle ici d'enfants.
Exact. Et ça, je vous avoue que je ne le comprends pas. Parce que la consommation de la porno fait vraiment partie de ce problème pour ce qui est des enfants, entendons-nous. Les adultes, c'est une autre chose. Et franchement, leur défense, c'est de dire « Nous avons trouvé l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection des enfants. » Ben non, c'est pas une question de liberté d'expression que de protéger les enfants et de demander aux clients de passer deux minutes pour vérifier leur âge. Je m'excuse, les droits ne sont pas tous égaux. Les droits individuels des enfants à être protégés sont plus importants que le droit d'accéder à la porno sans aucune barrière. Évidemment, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est le point de vue de beaucoup d'autres pays qui ont agi. Je pense à l'Allemagne, je pense à la France, je pense à la Grande-Bretagne, l'Espagne s'en vient. Donc, tout le monde dit, ça n'a pas de bon sens qu'on élève nos enfants devant ces écrans. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que vous le savez, l'intimité, là, c'est au cœur de la vie des êtres humains. Et s'il n'y a pas d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, dans la sexualité, ça a un effet partout. La violence, ça se fait dans l'intimité. Et c'est ça, moi, que je combats depuis des années. Et j'aurais aimé que le gouvernement tienne compte de mon projet de loi. Ceci dit, mon projet de loi va continuer sa route. Ils sont, à mon avis, complémentaires, ces deux projets de loi. Mais le gouvernement a indiqué très, très clairement qu'il était contre. Alors, j'imagine qu'il va tout faire pour que le projet de loi ne soit pas adopté.
Vous avez cité de nombreux pays. Pour préparer votre projet de loi, vous avez donc regardé ce qui se passe dans d'autres juridictions. Je reviens sur les autres volets du projet de loi à la lumière du débat sur la liberté d'expression. Parce qu'aux États-Unis, il y a deux lois, une du Texas, l'autre de la Floride. Ça se retrouve devant la Cour suprême. Et là, on est dans la désinformation, la propagande des propos haineux. Qui va décider ce qui peut être vu et lu sur les réseaux sociaux sans tomber dans la censure et donc, je dirais, limiter la liberté d'expression?
Oui. Alors, Monsieur Arcan, quand j'ai parlé tout à l'heure de la liberté d'expression, c'était vraiment en rapport avec la protection des enfants et non par rapport à ce qu'on qualifie de discours haineux. C'est sur la question de la protection des enfants face à la pornographie. C'est clair que toute la question du discours haineux, on va devoir étudier ça très attentivement au Sénat, c'est notre rôle, parce que là, il y a en effet un équilibre très, très fragile entre la liberté d'expression et la protection des minorités, dans ce cas-là, soit racisées, soit religieuses. Et là, évidemment, je peux pas vous répondre de façon absolue, mais je pense que là, dans ce cas-là, il faut vraiment réfléchir à la liberté d'expression. Parce qu'on peut pas on ne peut pas être favorable à une société où on ne dit plus rien, où on ne critique plus rien, parce que on a peur des conséquences. Il faut que la liberté d'expression puisse avoir un espace, et ce n'est pas l'équivalent, évidemment, du discours haineux. Mais là, c'est pas facile de faire la différence.
C'est pas facile parce que, par exemple, une plateforme comme Facebook, est-ce qu'on va les obliger à fermer des comptes? On l'a vu avec l'ancien président Trump sur Twitter qui est devenu X. Comment on trouve l'équilibre en disant ce sont des voix conservatrices, par exemple, des voix qui doivent se faire entendre? On peut être en désaccord, mais elles ont le droit d'être entendues. Et en même temps, ceux qui plongent vers carrément de la désinformation et de la haine aussi, là.
Voilà. Alors, vous dites le problème de façon bien meilleure que moi, et c'est effectivement cette question extrêmement difficile. Il y a beaucoup de choses dans ce projet de loi. Moi, j'ai surtout regardé ce qui touchait les enfants, parce que tu sais, on a copié le modèle australien, l'ombudsman, et tout ça a quand même fait ses preuves. Je dois dire que je vais étudier beaucoup plus attentivement toute la question du discours haineux, parce que, comme vous, je suis une journaliste et je crois que la parole doit s'exprimer. Pas la haine, mais entendons-nous, c'est pas si simple toujours de faire la différence et il ne faut pas tuer la liberté d'expression.
Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Julie Méville-Dechêne est sénatrice indépendante, donc à Ottawa. Et elle a déposé un projet de loi qui veut amener les sites de pornographie à s'assurer que les gens qui sont leurs clients, qui consomment, sont des adultes, donc ont 18 ans et plus. Et ça, c'est pas inclus dans le projet de loi déposé par le gouvernement fédéral. On va parler de vol de voiture. Vous allez comprendre pourquoi ce matin, il y a eu, sommet, des mesures d'annoncer. On se dit très bien, très bien, très bien. Mais imaginez, vous allez chez le concessionnaire pour l'entretien de votre véhicule, puis on vous apprend qu'il y a un GPS qui a été caché dans votre véhicule. C'est le cas de Stéphanie Darras, qui habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Madame Darras, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Racontez-nous un peu, c'était vendredi dernier là que vous vous êtes rendu chez le concessionnaire.
Oui, effectivement. C'est ça, donc, comme vous l'avez dit, je l'ai emmené pour mon entretien, mon véhicule, une Toyota RAV4 Prime hybride. Puis, en fait, quelques heures plus tard, ils m'ont rappelé pour me demander si j'avais installé un système de repérage, ce qui n'était pas le cas. Donc, à ma surprise, ils ont trouvé le système qui était, en fait, très bien dissimulé, aimanté au-dessus de mon rocker sur le côté passager. Ils m'ont expliqué que ça devenait courant que les criminels y collaient ça sur les voitures ciblées dans les stationnements des centres commerciaux pour les localiser puis les voler. Donc, c'est la première fois qu'ils en ont trouvé un, par contre. Bien sûr, mon premier réflexe a été contacter la police de Saint-Jean pour savoir comment retracer les personnes qui l'ont installé. Et puis, quand ils m'ont transféré un agent, ils m'ont simplement dit de le jeter puisqu'un crime n'avait pas été commis.
OK. On va préciser, là, sans trop donner de détails exacts, là, mais vous habitez sur une rue à Saint-Jean-sur-Richelieu et sur cette rue-là habitait Grégory Houlé, du crime organisé près des Hells, des gangs de rue qui a été assassiné il y a quelques mois.
Oui, effectivement. J'ai les mêmes mentionnés, en fait. Puis mon voisin aussi s'est fait voler son Jeep électrique il y a quelques semaines. Donc, j'étais un petit peu sous le choc de ne pas avoir été demandé plus d'informations, au minimum d'avoir été invité à remettre le système de repérage en évidence. C'est comme moins de documenter le type d'incident qui se produisait dans leur territoire. Parce que effectivement, j'habite dans un quartier avec des maisons de valeur assez élevées. Donc, puis tu sais, on se connaît tous en voisin. Puis là, c'est rendu un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Donc non, le système est actuellement en ma possession, puis c'est ça. on est un petit peu, je dirais, comme j'ai dit, sous le choc, puis aussi déçu en fait de la réaction. Mon père, en fait, par la suite, a contacté la police samedi. Lui, il était un petit peu déçu aussi parce qu'il a en fait 30 ans à la police de Montréal en tant que détective dans les années 80-2000. Il a dit au minimum, ça devrait être quand même considéré comme, surveillance accrue qui fait partie de la crime harcèlement criminel. Mais après avoir parlé avec un enquêteur, ils l'ont rappelé. Comme ils ont dit, il n'y a rien à faire parce que le crime n'avait pas été commis. Ben c'est ça.
Fait OK, mais
comme tombé à l'eau.
Ouais, ce que je dois vous dire, Mme Darras, c'est que, coïncidence, mais il y a des auditeurs qui m'ont écrit hier dans Rivière-des-Prairies. Et eux, c'était pas un vrai GPS comme tel, là, mais c'était plus une espèce de tag. Et on connaît la procédure, là, c'est-à-dire qu'il y a des voleurs qui ont des commandes pour trouver tel type de véhicule. Ils vont dans les stationnements, voient le véhicule, ils vont le taguer pour être capable de le suivre, puis ultimement aller le voler. Et lui et son voisin, même phénomène, ils ont eu la présence. En fait, ils ont découvert la présence de ces tags. Et ça fait une couple de fois là, que le véhicule est ciblé. Puis encore là, on leur a répondu, ben enlevez-le, il n'y a pas de crime parce que votre véhicule n'a pas été endommagé puis il n'a pas été volé.
C'est décevant. C'est un système, ça nécessite quand même un investissement. Sans considérer l'équipement aussi complémentaire pour suivre le dispositif de surveillance. Puis avec l'expérience de mon père, il l'a tout expliqué. Mais tu sais, ça reste qu'on m'a suivi. Maintenant, on sait où j'habite. C'est une intrusion de ma vie privée. Puis, tu sais, depuis, on a équipé la maison de caméra. Là, c'est la première chose qu'on a faite samedi. Parce que, tu sais, moi, l'idée de me faire suivre pour mener un vote de véhicule, c'est une chose, mais c'est le fait de me faire suivre, entre autres, là, qui m'a un petit peu déstabilisé.
Ben, je comprends. Vous faire suivre, puis les gens, ces gens-là savent où vous habitez, puis on s'entend qu'il y a eu des événements dans le quartier pas si lointains qui peuvent être...
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour les intéresser, parce que j'ai la portée des mains, puis moi, j'ai créé un groupe de chat entre voisins. On se garde toujours à l'affût de tout ce qui se passe. Fait que tout le monde me demandait ça a l'air de quoi. Comme j'ai dit, c'est tellement bien caché. C'est un petit cube aimanté, 2 pouces par 2 pouces. Puis ça s'appelle Tracky, T-R-A-C-K-I. Mais c'est tellement petit, mais ça regarde, je peux pas croire qu'on pourrait le retrouver nous-mêmes là en cherchant ce mode véhicule.
Merci d'avoir été avec nous, d'avoir partagé cette expérience pas très agréable, Mme Darras. Merci.
Bien, merci à vous. Bonne journée.
Au revoir, Stéphanie Darras, Saint-Jean-sur-Richelieu. Je rappelle que dans le cas de M. Woulet, il y avait eu erreur sur la propriété également. Donc, un voisin qui avait eu des menaces, une forme d'intimidation, s'était trompé d'adresse. Et après ça, il y a eu le meurtre dans ce centre commercial où il y a un CLSC. Et là, tu te fais suivre en plus, donc la personne sait où t'habites, c'est pas ben ben rassurant. On va maintenant regarder un peu le bilan des activités du SPVM. Il y a des nouvelles positives, notamment la baisse du nombre de crimes qui impliquent des armes à feu, mais il y a quand même des chiffres qui font sursauter. David Chen est avec nous, inspecteur, et aussi donc le porte-parole du SPVM. Monsieur Chen, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Avant de parler des chiffres comme tels, pour les vols de voitures, là...
Oui.
Est-ce que c'est vrai que si je trouve un tag puis j'appelle la police, on va me répondre de l'enlever puis on viendra pas voir puis on n'ira pas plus loin parce qu'il y a pas de dommage sur l'auto puis que c'est pas un crime comme tel?
Ben, je vous dirais que ce que je recommande aux citoyens, c'est effectivement d'appeler les policiers de votre localité si vous trouvez un GPS installé sous votre véhicule. C'est clair qu'en soi, peut-être que ça constitue pas une infraction, mais on pense que c'est important de le rapporter. Puis avec le policier, vous allez regarder ensemble, mais c'est quoi la situation? Parce qu'on peut parler d'un véhicule, j'écoutais le cas là, juste avant moi, on parle d'un RAV4, hein, c'est un véhicule qui est vraiment un des plus volés au Canada, sinon le plus volé. Donc ce type de véhicule-là, c'est important de communiquer rapidement avec l'assureur pour trouver une façon d'installer un vrai système de repérage. Mais sauf que c'est peut-être pas toujours pour un vol de véhicule, dépendamment du type de voiture. Faut regarder la situation du citoyen. Est-ce que ça peut être lié à autre chose? On a déjà vu des cas plutôt isolés dans le passé, là, que quelqu'un installe un GPS pour voir les allées et venues. Mais certainement que ça vaut la peine de le rapporter. Si les citoyens, par exemple, ont des caméras chez eux, si on est capable d'identifier le laps de temps dans lequel ça aurait pu être fait, c'est sûr que des fois, ça peut être une période prolongée.
C'est parce que ça, c'est un cas à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais je le disais, il y a un cas à Rivière-des-Prairies où ils ont communiqué avec le poste de quartier puis on leur a dit de se débarrasser du bidule en question. C'est pas la bonne réponse?
Ben, je vous dirais, il n'y a pas d'absolu. C'est difficile, hein? Les policiers appliquent de nombreuses lois, de nombreuses situations. C'est dur pour un policier, patrouilleur, généraliste, de connaître tous les ramifications, les possibilités d'enquête liées à un incident. Mais dans notre cas à nous, on préfère dire aux citoyens de le rapporter. On demande à nos policiers de prendre un rapport, ne serait-ce qu'un rapport d'information de nature criminelle.
Mais si on envoie plusieurs dans le même quartier, ça peut, j'imagine, aider à faire avancer des enquêtes sur des réseaux.
Oui, vous avez raison. Je pense que c'est du cas par cas. Mais dans certains cas, c'est sûr que le dispositif en tant que tel, il n'y a pas nécessairement une expertise peut-être qu'on peut aller faire, mais certainement que par modus operandi, par exemple, peut-être qu'on peut lier à une certaine organisation. Des organisations qui fonctionnent avec des AirTags, d'autres qui fabriquent des GPS un peu plus maison. Donc peut-être qu'on pourrait le relier à une enquête.
Bon, on va regarder le bilan, les chiffres et tout ça. La bonne nouvelle, c'est le nombre d'événements qui impliquent des armes à feu qui a baissé. Ça veut dire que les opérations ont donné des résultats, là. Les frappes contre les organisations criminelles. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de saisies d'armes?
Oui, il y en a eu beaucoup. Je vous dirais que c'est une tendance là qui s'est poursuivie tout au long de l'année 2023. En ce moment, si vous permettez, M. Arcand, peut-être juste une précision.
Oui.
Ce qui a été sorti la semaine passée, c'est vraiment des données préliminaires. Parce que le rapport annuel en tant que tel, on va le publier en juin, comme à chaque année. Donc, ce qui est sorti la semaine passée, on appelle ça un bilan trimestriel. Là, je veux pas qu'on s'en fâche dans les termes, mais quatre fois par année, le SPVM sort des statistiques. D'abord et avant tout pour outiller nos chefs de quartier, les chefs des postes de quartier, pour qu'ils puissent voir un peu l'évolution, qu'ils puissent interagir avec le citoyen, par exemple, via des infolettes, informer les élus locaux. Mais c'est pas des statistiques qu'on veut, qui expliquent tout, là, avec toute la contextualisation. Ça, c'est vraiment en jeu. Fait qu'il faut juste faire attention aux conclusions qu'on tire des statistiques qu'on a sorties la semaine passée.
Mais au moins, on voit que la lutte contre les armes à feu commence à être payante un peu, là.
Clairement, très payante. -26%, vous l'avez dit. Le directeur Dagal, le comité de direction l'ont dit aussi, là, quand on a fait le point de presse le 13 février. On est très content de ça. Ceci dit, on baisse pas les bras, parce qu'il y a toujours de l'effervescence dans le domaine des armes à feu. Il peut suffire une année d'un mois où est-ce qu'il y a une flambée et les événements remontent à la hausse.
Il y a quelque chose, là, qui m'a, fait sursauter dans ce rapport-là. Là, vous dites, je comprends qu'il est préliminaire, mais quand même, là. 50 appels par jour pour des cas de voies de fait sur le territoire de la police de Montréal.
Oui.
Ça, c'est deux à l'heure.
Vous avez raison, M. Arcand. Le voie de fait, c'est le crime contre la personne le plus fréquent. Je vais dire à Montréal, là, mais j'ose dire dans la plupart des villes. Donc, le voie de fait, c'est aussi le crime d'agression, bon, le moindre. Mais vous savez, c'est une population de 2 millions d'habitants là sur le territoire qu'on a, 50 par jour. Je veux pas dire que c'est correct, mais effectivement, dans les crimes contre la personne, si je me souviens bien, je pense que autour de 60% de tous les crimes contre la personne, c'est des voies de fait. Alors, c'est, je dirais, statistiquement normal qu'on en a à peu près une cinquantaine par jour.
Je comprends, mais ça veut dire que c'est des gens, pour toutes sortes de raisons, qui pètent leur coche. Là. Ça se passe dans un contexte interpersonnel, ça peut se passer. On a vu la semaine dernière un cas de rage au volant, c'est tout ça. Là.
Oui, exactement. Je vous dirais que c'est... T'sais, pour expliquer cette tendance-là, on pourra s'en reparler en juin, si vous le voulez, mais il y a peut-être deux éléments qu'on va explorer davantage. Premièrement, on sait qu'au sortir de la pandémie, il y a eu cette tendance à l'irritabilité, la hausse de ces crimes-là, ces crimes de violence, puis c'est une tendance qui est partout en Amérique du Nord. Mais de l'autre côté, si on peut un peu le voir comme ça aussi, ça voudrait dire que les citoyens font de plus en plus confiance à la police pour régler ces problèmes-là. Peut-être qu'on dénonçait moins avant. Maintenant, on a plus tendance à avoir recours à la police, qui peut, jusqu'à un certain point, être un bon signe.
L'autre volet qui me préoccupe, puis on le voit encore ce matin, ce sont les arnaques. Là, on a dans la presse des faux logements, on a des faux textos, on a des vendeurs de billets. On comprend que la plupart de ces gens-là sont pas basés ici, là, puis le marché québécois ou montréalais les intéresse parce que, bon, il y a du volume. Est-ce que c'est vraiment possible pour la police de Montréal de travailler ces organisations-là ou si c'est comme peine perdue? Puis c'est un peu là, de dire, ben soyez vigilants, tombez pas dans leur piège parce qu'on peut pas faire grand-chose.
La réponse, c'est oui. C'est possible pour le SPVM et tous les autres corps de police d'avoir un impact. Maintenant, vous l'avez dit, les statistiques démontrent que c'est un crime qui est en hausse. En général, encore une fois, en Amérique du Nord, les chiffres augmentent, entre autres, parce que les stratagèmes sont de plus en plus sophistiqués, le recours aux réseaux sociaux, le recours aux différentes technologies de l'information. Ceci dit, je vous donne un exemple. L'automne dernier, par exemple, il y a eu un stratagème qu'on a découvert par rapport à des fraudes envers des aînés. Et notre section des fraudes générales s'est mise sur ce cas-là. et a réussi à faire des arrestations, à démanteler ça. D'ailleurs, notre commandant des fraudes, là, Steve Belzile, va être en entrevue à JE cette semaine, vendredi. Donc, on prend les plaintes. C'est important pour les citoyens de le signaler.
Et ces fraudeurs, ce sont des gens d'ici ou des gens d'ailleurs?
Ça dépend des stratagèmes. Alors, il y a des stratagèmes, comme vous mentionnez, je lisais par exemple l'article de la presse par rapport aux faux logis, des gens qui sont à l'étranger et qui utilisent les réseaux sociaux pour frauder des gens ici. Mais il y en a d'autres où est-ce que les suspects, ben, ils sont ici à Montréal. Par exemple, quand on parle de gens qui vont aller cogner à des portes, des fraudes de faux représentants, par exemple, ben, ce sont des fraudeurs ici. Alors, c'est vraiment important que les citoyens signalent ces événements-là. Mais ce qui arrive, c'est quand on se fait pogner, là, des fois, on a honte, on veut pas le dire, mais il faut aller au-delà de ça. C'est important de le signaler. Alors, par la suite, ben, ça nous permet d'établir les tendances. Des fois, sur un certain nombre de cas, il en suffit de un pour avoir un élément, un indice, une plaque de véhicule, une description. On peut aller chercher une caméra, on identifie un individu. Ça permet à nos enquêteurs de travailler ces dossiers-là.
On a vu beaucoup de cas de violence qui touchent les femmes directement. Encore hier, à Montréal-Nord, d'autres cas. Est-ce que vous diriez, là, dans une analyse préliminaire, qu'il y a quand même une multiplication d'événements qui impliquent de la violence et ce sont les femmes qui sont les victimes?
Ben, je vous dirais oui, puis c'est totalement inacceptable comme société, comme citoyen, comme voisin, on peut pas tolérer que ce genre d'événement-là se passe, qui victimise les femmes. Au SPVM, on a une section spécialisée qui traite des violences conjugales. Tous nos enquêteurs dans les centres d'enquête traitent les appels de violences conjugales. Nos patrouilleurs sont bien sensibilisés aux faits, à ce qu'il y a à faire. Alors, encore une fois, c'est important de dénoncer. Mais quand vous connaissez une personne qui est aux prises avec ce type d'événement qui est prise dans ce cycle de la violence, c'est important de l'appuyer, c'est important de dénoncer pour qu'on puisse faire des sorties de
là, je sais que vous pourrez pas me répondre, ouais. Mais il faut que je le dise pareil, là. Le gars de Montréal-Nord, là, il a des antécédents, il a déjà été accusé deux fois de cas de violence conjugale, sauf erreur avec la même personne. Vous avez beau l'arrêter, là. Comment ça se fait qu'il se ramasse dehors encore? On peut se la poser.
On peut se la poser, effectivement. Je connais pas assez bien le dossier là, puis les antécédents, mais effectivement, je comprends que quand on le regarde, ça nous choque. Mais je pense qu'il faudrait pousser l'analyse pour voir. T'sais, les policiers font une partie du travail, on travaille avec les procureurs, les juges rendent des décisions, puis tout le monde ensemble, on constitue ce système de justice.
J'allais, pour conclure, dire le juge rend la décision, puis vous les repincez 24 heures ou deux semaines plus tard sur la rue.
Ben, c'est ça notre travail souvent. D'appliquer la loi, protéger les citoyens, puis c'est le travail de d'autres partenaires de mener les dossiers à la cour.
Monsieur Chêne, merci d'être venu ce matin.
Toujours un plaisir.
David Chêne est inspecteur au service de police de la ville de Montréal. Maintenant, on parle beaucoup de crise de logement. On a vu des RPA, des dizaines de RPA qui ont fermé en disant c'est plus possible maintenant de faire face au coût de main d'œuvre et la demande est tellement forte. Hier, on a appris qu'il y a un partenariat qui s'est fait entre le fédéral, Québec et une fondation privée pour bâtir, c'est ça l'objectif, 1000 logements pour les personnes aînées à faible revenu dans 10 villes du Québec d'ici 2 ans. Et c'est l'homme d'affaires Luc Maurice qui a initié pas mal ce projet. Il est avec nous ce matin. Monsieur Maurice, bonjour.
Bonjour, Charles.
D'abord, peut-être nous raconter l'histoire un peu de ce projet-là. Pourquoi vous avez pensé à cette approche et comment vous avez, je dirais, séduit les gouvernements?
Je vous dirais que notre mission, c'est de contribuer au mieux vieillir de la société, puis pour qu'elle soit plus en sécurité, plus libre, plus heureuse, moins isolée, en tout cas. Et tous les niveaux de gouvernement savent bien quelle est notre mission depuis longtemps. On lutte beaucoup contre l'âgisme, pour l'autonomie des gens. Mais je n'avais pas beaucoup touché aux personnes plus âgées qui étaient plus pauvres. Alors, compte tenu que je suis moins occupé dans ma compagnie depuis un an et demi, qui est maintenant sous la direction d'Alain Champagne, qui fait un excellent travail, alors je me dis, ce que je connais dans la vie, c'est les aînés et le développement immobilier. Pourquoi pas mettre ça en contribution?
Et là, ça veut dire là, concrètement que ces logements-là vont être accessibles à des personnes âgées à faible revenu parce que le loyer sera pas trop cher.
Oui, on parle pour la grande majorité des logements en bas de 625 $ par mois avec chauffage, électricité et Wi-Fi. Alors, c'est quand même assez raisonnable.
Il faut que ce soit des gens qui sont autonomes.
Oui, exactement. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, même l'Institut national de recherche en santé le dit, Si vous prenez des gens de 82 ans et plus, il y a encore plus que la moitié de ces gens-là qui sont très autonomes. Et on associe beaucoup le vieillissement à la maladie, hein, souvent, à la dépendance, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens. La réalité, c'est que vous et moi, on a 81% de chance de ne jamais coucher dans un CHSLD de notre vie. Alors, on va mourir d'une pneumonie, d'une insuffisance cardiaque, d'un cancer les trois dernières semaines à l'hôpital, ou une chute. C'est ça qui va arriver, hein, plus qu'autre chose.
L'autre question que j'avais envie de vous poser, vous arrivez avec ce modèle-là, je comprends qu'il y a des fonds publics, il y a votre fondation qui est impliquée, mais pourquoi il y a tant de RPA qui ferment leurs portes et qui décident après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de passer à autre chose?
Ah, c'est pas facile, hein? L'industrie en général, autant elle était porteuse il y a quelques années, la situation a changé dramatiquement. La pandémie a juste accéléré ces changements-là. Je vous dirais que contribuer au mieux vieillir, ça a beaucoup d'enjeux. Le côté autonomie, le côté faisabilité financière, le côté pauvreté, le côté âgisme, c'est tout des enjeux. On pourrait parler de chacun avec pendant longtemps. Mais de vous dire pourquoi les résidences, tant de résidences sont fermées. Ça fait très longtemps que je suis dans ce secteur-là. J'ai été président de l'Association des propriétaires de résidences pendant longtemps. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui en arrachent, contrairement à ce que certains croient.
Je veux vous entendre sur la philanthropie pardon, en général, parce que c'est peut-être une impression qui est fausse, mais qu'au Québec, on a un peu de misère avec ça. Je lisais des commentaires suite à l'annonce de ce projet-là hier, du Frappru qui dit bon, qui défend des locataires et tout ça, et qui dit en gros c'est bien, ça fait des logements additionnels, mais c'est à l'État de les construire, il faudrait pas mêler le privé puis des philanthropes à ça. Vous le faites à partir de votre fondation. Est-ce qu'on a un malaise avec l'existence de fondations qui décident de mettre de l'argent dans des projets comme le vôtre?
D'abord, juste par précision, le projet, ces 1000 unités-là sont financées quasi entièrement par les gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux. Et j'en profite pour saluer le dynamisme, l'agilité de plusieurs villes du Québec qui ont levé la main rapidement et qui ont contribué à tout ça avec beaucoup d'énergie et de positivisme. Ceci dit, le côté philanthrope, en l'occurrence nous ici, oui, on contribue 5 millions de dollars, oui, on contribue à initier tout ça, à trouver une formule qui, je le souhaiterais, soit pérenne et influence d'autres entités à faire la même chose et pourrait être utilisé à long terme à travers tout le pays aussi, dans ce qui me concerne. La différence, c'est qu'on garantit le résultat, c'est-à-dire, alors on réussit à faire un produit beaucoup plus rapidement, à moins cher, et on s'en porte garant. Alors, c'est ce que le côté gouvernemental peut faire un peu plus difficilement, si vous voulez.
Mais si je reviens à la question de base, je comprends pour ce projet-là, sur la philanthropie, de voir que des mécènes, que des gens comme vous et d'autres, là, il y a un paquet de fondations qui existent au Québec et depuis plus longtemps du côté anglophone, ça émerge maintenant du côté francophone. Est-ce que vous avez l'impression que des fois, parce qu'on a eu du succès, qu'on a fait de l'argent puis qu'on retourne à la société, c'est encore vu, comment dirais-je, qu'il y a encore des gens qui ont une méfiance face à ce type de don, de contribution?
Bon, écoutez, dans certains cas, oui, d'autres non. Moi, que ce soit privé ou public ou autrement, si c'est efficace, si c'est accessible et si c'est humain, le reste m'importe peu. Hein. La mécanique, le mécanisme ou qui apporte les services ou la contribution, c'est pas important. C'est important que ce soit fait de façon de s'assurer que les ressources humaines et les ressources financières sont optimisées, puis s'assurer que ce soit que le client soit heureux, satisfait, que ce soit humain. Le reste, pour moi, c'est je ne vais pas m'embarquer dans des dans des opinions à ce niveau-là, franchement.
OK. Merci, M. Maurice. Bonne journée.
Je vous remercie.
Au revoir. Luc Maurice est le fondateur du groupe Maurice.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.